Le journal est présenté par Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Nouveau samedi à haut risque pour le 19e acte des Gilets jaunes. Après les dégradations de la semaine dernière, l'exécutif est sous pression et le dispositif de force de l'ordre est revu. Les hommages aux victimes de l'attentat de Carcassonne et Trèbes aujourd'hui, un an après cette tuerie et la prise d'otages dans le Super U. Une grande surface toujours ouverte et dont les personnels restent très marqués. Reportage à suivre de Rémi Brancato. Aux États-Unis, Washington retient son souffle après près de 2 ans d'enquête. Le procureur spécial a remis son rapport sur les soupçons de collusion entre les équipes de Donald Trump et la Russie. Les précisions de Grégory Phillips. Et nous irons en Algérie où la mobilisation de la rue dure depuis un mois désormais. Des manifestations toujours dans le calme et avec une revendication invariable, le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Ne pas revivre les mêmes scènes que la semaine dernière, c'est le credo du côté du gouvernement et des forces de l'ordre pour ce 19e acte des Gilets jaunes aujourd'hui. Manifestation interdite à Paris sur les Champs-Élysées, mais aussi à Nice, à Bordeaux ou Toulouse sur certaines places. Les forces de l'ordre vont donc se placer de façon à protéger certains sites, explique Jean-Marc Bailleul. Il est secrétaire général du syndicat des cadres et de la sécurité intérieure.
Il y a une sanctuarisation d'un périmètre qui va l'être par des effectifs de sécurité publique, voire pourquoi pas de police municipale, qui vont empêcher l'accès aux endroits décidés. Deuxième niveau, on va empêcher les rassemblements et les dissuader par l'application d'amendes de 135 euros pour dissuader les petits groupuscules avant qu'ils ne deviennent trop gros. Il y aura des fouilles, comme ça s'est passé le 8 décembre, en amont, dissuasives pour essayer d'éviter tout matériel qui soit cassant. Et autour de tout cela, on aura les forces mobiles, gendarmes ou CRS, qui pourront être amenés à intervenir, soit pour renforcer la sanctuarisation, soit pour être mobile si ceux qui sont venus pour en découdre se déplacent rapidement dans la ville, à Bordeaux, à Nice ou à Paris. Il y a un effet de report tout à fait envisageable, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que dans le pays, la loi permet d'interdire des lieux, d'interdire une manifestation. Il faut aller au bout du raisonnement et c'est pour ça qu'on a besoin de libérer les forces mobiles, qu'elles soient beaucoup plus autonomes, beaucoup plus réactives, justement pour faire face à ce déport qui pourrait se produire suite à l'interdiction d'un lieu ou d'une ville.
Jean-Marc Bailleul, le secrétaire général du syndicat des cadres et de la sécurité intérieure. Le dispositif, vous l'avez entendu, est donc très important. L'exécutif a même annoncé le soutien des militaires de la force Sentinelle, ce qui a largement fait réagir. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a même dû désamorcer la bombe, expliquant que les militaires n'étaient pas là pour faire du maintien de l'ordre. Mais on comprend entre les lignes que l'exécutif joue gros ce week-end, Rosalie Lafarge.
Toute la semaine a été rythmée par les annonces de l'exécutif et les critiques virulentes de l'opposition. Le gouvernement veut donner le sentiment de reprendre la main. Il affiche une fermeté renforcée, prône surtout l'impunité zéro. Tout va dépendre de ce qui va se passer aujourd'hui, mais évidemment le ministre de l'Intérieur est en première ligne. Sa gestion de la crise lui vaut bon nombre de reproches et Christophe Castaner apparaît fragilisé, en mauvaise posture. Comme l'exécutif a choisi de décapiter la préfecture de police de Paris en limogeant le préfet Michel Delpech, son directeur de cabinet et le directeur de la sécurité de proximité, l'ancien maire de Fort-Calquier semble plus que jamais en danger. Cette semaine, c'est d'ailleurs Édouard Philippe qu'on a mis aux commandes. C'est le Premier ministre qui présente les nouvelles mesures sécuritaires. C'est encore le Premier ministre qui annonce le limogeage du préfet de police et c'est toujours le Premier ministre qui annule son déplacement en Guyane prévu ce week-end pour rester à Paris. Faut-il y voir un désaveu de Christophe Castaner ? Pas pour l'instant, surtout en coulisses. Le ministre de l'Intérieur a le soutien du président et du gouvernement. Mais jusqu'à quand ?
Rosalie Lafarge. Et pendant que les Gilets jaunes manifestent, plusieurs centaines de jeunes se réunissent depuis hier près d'Aix-en-Provence. Conférence citoyenne voulue par le gouvernement pour permettre aux jeunes de prendre la parole. Il faut dire à Anne Fauquemberg qu'ils n'ont pas vraiment trouvé leur place ni dans le grand débat et que la politique a du mal à les passionner. En témoignent les chiffres de l'abstention de cette catégorie d'âge.
Selon l'INSEE, seul un électeur sur 5 âgé de moins de 29 ans a voté à tous les scrutins en 2017. Et selon l'IFOP, ils étaient 61% à bouder les élections au premier tour des législatives. Des jeunes comme Vincent, il a 23 ans et il est en apprentissage à Nantes.
Jusqu'à là, il n'y a rien qui m'a séduit dans ce que j'ai vu. Donc je viens pour justement peut-être me sensibiliser un petit peu plus. Peut-être que c'est moi qui regarde mal jusqu'à là. Mais je sais pas, j'attends de voir.
Des 18-25 ans qui se sont aussi peu exprimés dans le grand débat et que le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, a voulu mieux inclure.
Parce qu'on sait que quand on est jeune et qu'on se retrouve dans une réunion où il y a des gens qui souvent parlent très bien parce qu'ils ont l'habitude et puis qui s'appuient souvent sur tout un vécu, toute une expérience pour parler, forcément, parfois on peut se sentir pas totalement légitime.
Et au regard des premiers échanges hors micro hier après-midi, le garant du grand débat, Jean-Paul Bailly, est impressionné.
Je les ai trouvés plus en capacité de débattre véritablement que les conférences, pas adultes, mais enfin disons les autres conférences où il y avait tous les citoyens, avec un point fort, j'ai trouvé en me promenant le long des tables, qui est quand même la transition écologique.
95 jeunes qui auront mis en pratique hier soir leur penchant écolo avec un repas végétarien pris sur ce campus qui se décrit comme une base pour explorer le futur.
Anne Fauquemberg. Journée de commémoration ce samedi, un an après l'attentat de Carcassonne et Trèbes. 4 personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre Édouard Philippe est à Trèbes aujourd'hui où le terroriste avait pris en otage plusieurs personnes dans le super-U de la ville. Une grande surface qui existe toujours aujourd'hui et dont les clients et personnels restent très marqués. Rémi Brancato.
Sur le parking du supermarché, tout le monde se souvient de ce 23 mars.
J'ai entendu des cris.
Suzanne Ribière, retraitée, est sortie juste avant l'arrivée du terroriste.
J'ai vu des gens qui couraient et donc j'ai dit je vais aller au rond-point et appeler la police. J'ai échappé de peu à l'attentat.
À l'intérieur, 90% des salariés ont repris le travail, éprouvés par l'attentat mais aussi l'inondation du magasin en octobre.
Ça a permis de refaire ce magasin entièrement puisqu'il a été inondé avec 80 cm d'eau.
3 mois de travaux menés par Nicolas Bringer, le président de Système U dans le Sud.
C'est quelque part un peu une revanche du destin. Ça permet probablement aux salariés d'éviter des repères visuels douloureux.
Alors à Trèbes ce matin, la place de la mairie change de nom, elle devient place de la République. Le maire Éric Ménassy n'a pas voulu lui donner le nom d'Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a échangé sa vie pour celle d'une otage.
Parce qu'il était difficile pour nous à Trèbes de hiérarchiser la douleur des familles, il était très difficile pour nous à Trèbes de laisser des Trébéens à côté, il y aura les 4 noms qui seront déclinés par ordre alphabétique.
La plaque sera dévoilée ce matin.
Moi, je viendrai.
Elisabeth fermera sa boulangerie juste en face.
Pour pouvoir tourner la page, pas les oublier, parce qu'il ne faut pas oublier, mais arriver à tourner cette page.
Et pour cela, le frère et la fille de 2 victimes doivent prononcer quelques mots aux côtés du Premier ministre.
Rémi Brancato et cet hommage aux victimes de cet attentat, il y en aura d'autres en France aujourd'hui. Nous sommes ce matin avec le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez vous aussi décidé de rendre hommage à ces victimes et plus particulièrement à Arnaud Beltrame.
Oui, parce que ce militaire a fait preuve d'une abnégation qui a soulevé l'admiration de toute la France, de tout un peuple. Il est allé au bout de sa mission de militaire, mais je dirais au-delà, par ses convictions d'homme. Il a sacrifié sa vie pour en sauver d'autres. Et c'est à travers lui, bien sûr, à tous les militaires, à tous ceux qui s'engagent tous les jours pour nous protéger, pour assurer notre sécurité, que nous rendrons hommage.
Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Étienne. On vous retrouve après ce journal avec Caroline Brouet. 8h08 sur France Culture aux États-Unis. C'est un rapport potentiellement explosif pour Donald Trump que vient de rendre le procureur spécial Robert Mueller. 22 mois d'enquête sur les soupçons de collusion entre les équipes du président et la Russie pendant la campagne de 2016. Le contenu de ce rapport n'a pas encore été communiqué. Seul le ministre de la Justice en est le destinataire. Mais tous les pouvoirs américains sont dans l'attente, Grégory Phillips.
De manière assez étonnante, Donald Trump n'a pas tweeté, n'a pas réagi à la fin annoncée de cette enquête. Lui qui, depuis bientôt 2 années, n'a cessé de dénoncer ce qu'il appelle une chasse aux sorcières menée par les équipes du procureur Robert Mueller. Le procureur indépendant a en tout cas terminé son travail. Au total, 34 personnes ont été inculpées, dont 6 proches du président. Mais pour des faits parallèles ou antérieurs à cette enquête russe, le bureau du procureur fait savoir qu'il n'y aura pas d'autres inculpations, ce qui est une bonne nouvelle pour la Maison-Blanche. Cela signifie notamment que le fils du président, Donald Trump Jr. ou son gendre, Jared Kushner, ne devrait pas être inquiété. L'attorney général va maintenant, dans le week-end, transmettre ses conclusions au Congrès. Les démocrates veulent que le rapport soit rendu public immédiatement et intégralement afin que tout le monde sache si les équipes de campagne de Trump ont, oui ou non, intrigué avec la Russie et surtout si le président a tenté de faire obstruction à la justice. Le peuple américain, a dit la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a droit à la vérité.
Les précisions précisions de Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Donald Trump qui a également choqué la communauté internationale dans son quasi-ensemble après son annonce sur le plateau du Golan. Le président américain souhaite reconnaître la souveraineté d'Israël sur ce territoire conquis en 1967 et annexé en 1981. La Syrie demande à l'ONU de condamner les propos de Donald Trump et de réaffirmer sa position sur la question du Golan. Plusieurs résolutions ont en effet été adoptées par l'ONU ne reconnaissant pas cette annexion du territoire par Israël. En Syrie, justement, les forces démocratiques syriennes annoncent ce matin leur victoire sur le groupe État islamique. La victoire militaire a été remportée, se félicite sur Twitter le porte-parole des FDS. La chute de Barouz met fin à 4 années de lutte contre le groupe et de djihadistes sur le terrain. Au Royaume-Uni, la solution au Brexit viendra peut-être de la rue. Les opposants à la sortie du pays de l'Union européenne vont manifester à Londres à la mi-journée. Ils demandent l'organisation d'un second référendum sur cette question. Pour le moment, le Brexit est dans l'impasse. La date butoir est fixée au 12 avril désormais. La première ministre Theresa May espère toujours faire accepter son projet d'accord par les parlementaires britanniques, eux qui ont rejeté ce texte par 2 fois. S'il est encore rejeté, le spectre d'une sortie sans accord serait alors plus présent que jamais. En Algérie, là aussi, c'est la rue qui fait pression sur le pouvoir en place. Depuis 1 mois, les habitants sont mobilisés dans tout le pays pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Le message reste inchangé et les manifestations gardent toujours ce même caractère pacifiste. Certains vont même jusqu'à leur donner un côté quasi festif, Weba Filali.
Hamid tient entre ses mains des pots de peinture rouge, bleu, vert, blanc, jaune, noir. Ce fonctionnaire a apporté un tableau sur un chevalet et invite les manifestants à mettre un coup de pinceau.
Chaque Algérien, chaque citoyen a une touche dans ce tableau.
Ce peintre amateur de 60 ans veut que chaque Algérien laisse son empreinte.
Et le tableau, c'est un témoin de l'histoire. Elle devient comme un document d'histoire de la nouvelle Algérie.
Sur la place Odin, une place emblématique d'Alger, une pièce de théâtre se joue devant des centaines de manifestants et Yassine en est le scénariste.
C'est 6 figures de la révolution, de la lutte algérienne qui reviennent à la vie pour juger le système. Et le système prend un avocat et le peuple s'invite pour s'autodéfendre. Je l'ai écrit il y a 1 semaine et ça a été monté en un temps record, en 2 jours et demi.
Avec des copains comédiens et metteurs en scène, celui qui est ingénieur dans la vie a voulu marquer le coup pour ce mois de mobilisation.
Ça fait 1 mois de lutte, le 22 février, 22 mars, pour commémorer 1 mois de lutte. Nous voulons une Algérie diversifiée, tolérante, une Algérie où tout le monde aura sa place. Le pouvoir, c'était lui le geôlier, nous sommes les serruriers. On a cassé la serrure.
Yassine qui imagine pourquoi pas faire jouer sa pièce dans les rues de toutes les grandes villes d'Algérie.
Le reportage de Weiba Filali pour France Culture. Le président chinois Xi Jinping, lui, est arrivé de son côté en Italie hier. C'est le début d'une mini-tournée européenne qui l'amènera d'ailleurs en France demain. Une visite d'ordre économique en Italie puisque le chef du gouvernement Giuseppe Conte va rejoindre le projet de nouvelle route de la soie voulu par Xi Jinping. Un protocole d'accord est signé aujourd'hui. Cela ne réjouit ni Bruxelles, ni Washington, inquiet de voir l'Italie se rapprocher d'un de leurs principaux rivaux au plan commercial, Olivier Tosseri.
L'Italie déploie le tapis rouge pour recevoir le président chinois, une visite d'État dont le point d'orgue est la signature d'un protocole d'accord pour le projet de nouvelle route de la soie. L'Italie est le premier pays membre du G7 à y participer. Elle veut saisir toutes les occasions pour relancer son économie qui est entrée en récession et rattraper son retard sur ses voisins. Rome n'est que le 19e partenaire commercial de Pékin, exporte vers la Chine l'équivalent de 13 milliards d'euros de marchandises par an. C'est presque 2 fois moins que Paris et 3 fois moins que Berlin. L'Italie renforce donc ses partenariats avec les entreprises chinoises dans les secteurs bancaires, énergétiques, agroalimentaires, des infrastructures notamment pour moderniser les ports de Trieste et de Gênes, mais aussi celui des télécommunications. Elle l'a fait sans consulter ses alliés traditionnels, à commencer par les Américains en conflit commercial ouvert avec la Chine, inquiets que la péninsule ne soit son cheval de Troie en Occident. Pour les rassurer, le gouvernement italien a revu ses ambitions à la baisse, notamment en restreignant les accords sur les dossiers sensibles des télécommunications. Mais les Chinois savent que l'Italie, pays en crise avec un gouvernement instable, est en quelque sorte le maillon faible des pays du G7. C'est la porte d'entrée idéale pour étendre leur influence en Europe.
Olivier Tosseri, la météo de ce samedi avec un temps mitigé sur le nord de la France, de la grisaille attendue ce matin, notamment des brouillards qui vont se dissiper au fil de la journée. Au sud, le soleil va s'imposer avec quelques nuages sur les Pyrénées cet après-midi. Les températures en moyenne de 10 à 18 degrés, on attend 9 à Paris et à Lille, 11 à Strasbourg, 14 à Bordeaux et Saint-Étienne, 15 en Corse et 19 le maximum à Perpignan.